au fur et à mesure que le spectacle avance, le décor se casse et on a la falaise peut-être qui s'effrite quelque peu.
Alors, je ne veux pas te dire, Thierry, je ne veux pas dire que ça s'effrite, mais je peux te dire des choses.
Je voulais uniquement te demander si ce n'était pas une allégorie de l'effritement de notre monde.
Oui, ça l'est, en tous les cas, ou l'impression, si tu veux, que quelque chose se passe, peut-être pas de l'effondrement, mais quelque chose se délite autour de nous, dont on n'a pas le contrôle, en fait, ou dont on n'a plus le contrôle. Ce spectacle-là, c'est un diptyque, en fait. Il y a eu un premier qui s'appelait « Là ». Que ce que j'ai pas dit dans Falaise, c'est que c'est noir au niveau de l'esthétique. C'est du noir et blanc. Alors, le noir et blanc, parce que je pense qu'il y a quelque chose, on le sait en photographie, par exemple, le noir et blanc, ou une photo couleur, ou une photo noir et blanc, il y a un côté, ça donne une certaine abstraction, si tu veux, quelque chose dans le temps, on sait plus bien l'époque. Tu vois, le noir et blanc donne un truc.
Efface.
D'abord, c'est magnifique, le noir et blanc, dans ce que ça peut provoquer, mais efface, c'est la notion peut-être de temps, de temporalité, d'endroit précis que tu reconnaîtrais, tu vois, par une certaine tonalité, une certaine couleur. Donc, ça donne une chose assez précieuse, finalement, le noir et blanc. Donc,
Ah bah oui.
Donc, le mur s'effrite. Oui, en tous les cas, ce mur-là, il faut percer le mystère de ce mur-là. Peut-être que ça devienne un allié ou qu'on puisse le traverser, voilà. Et il y a un changement d'esthétique, c'est-à-dire que je ne veux pas trop raconter, mais...
Non, il ne faut pas trop dire.
Il se passe quelque chose sur le décor lui-même qui, petit à petit, au fur et à mesure qu'avance le spectacle, nous amène à un autre endroit.
Alors, ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que le spectacle ne propose pas véritablement de solution, et tu le disais, mais il pousse le spectateur dans la réflexion.
Ce qui est génial, c'est ce qu'il y a de mieux. En fait, le pari au-delà des spectateurs qui ont l'habitude de le spectacle, c'est les gens qui n'ont pas l'habitude de le spectacle, qui vont venir au Théâtre de la Passerelle. En fait, tu vois, c'est l'endroit de lâcher prise. C'est-à-dire, moi, je dis toujours, quand on rentre dans une salle de spectacle, on se laisse aller, on lâche prise, on n'attend rien. Au mieux, on attend de se faire surprendre. Voilà. Il faut se laisser aller, parce que là, si on se laisse aller, comme on lirait, je sais pas, un livre ou dans un film, on se laisse aller, eh ben, il se passe quelque chose. Tu vois, on en avait déjà parlé, Thierry, mais ce que je disais, c'est pas je vais aimer, je vais pas aimer spectacle. C'est tellement un chef-d'œuvre, ce truc. C'est tellement un spectacle où les gens sont au sommet de leur art, qu'il se passe forcément quelque chose. Tu vois, c'est comme quand t'es confronté à un tableau, tu connais pas le peintre, et tout d'un coup, boum, tu prends quelque chose, tu dis, tu vas rentrer dans ce tableau, que tu aies des références culturelles.
Ou aucune.
C'est-à-dire que c'est juste toi, l'humanité que tu as en toi, ce que tu es toi.
Ta sensibilité.
Ce que ça dégage. Et c'est ça la force de ces spectacles. C'est-à-dire que ça s'adresse vraiment à tous. Et c'est parce que c'est un chef-d'œuvre et que c'est une merveille absolue.
Un mot de Camille De Courty.
Camille De Courty, donc, qui est la co-metteuse en scène avec Blai Mateus, hein, qui est catalan. Lui, c'est une compagnie franco-catalane, qui, elle, est très dans l'histoire du rapport au cheval. C'est elle qui dresse ces animaux pour le plateau. Mais encore une fois, le passage de l'animal, c'est génial. On a déjà reçu un spectacle de cette compagnie qui s'appelait Bestias, sous chapiteau au bocage. Moi, ce que j'adore et ce que je... Quand on lit de la poésie, par exemple, que n'importe qui peut lire de la poésie, plus ou moins facile, en fonction des habitudes, Il n'y a pas une idée, quand tu lis un poème, de tout comprendre. C'est-à-dire que c'est un rythme, c'est des mots, c'est des couleurs qui entendent dans ta sensibilité. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, mais il se passe quelque chose, comme une vague, quelque chose qui t'emporte. Et en fait, ce spectacle, c'est ça. C'est d'une fulgurance poétique qui fait qu'à un moment donné, ça te parle, il se passe quelque chose. D'ailleurs, je vous recommande, et je recommande aux auditeurs, de regarder sur notre Facebook, on a mis un espèce de micro-trottoir de gens qui sortent de 50 ans en Yvelines après avoir vu le spectacle, jeunes, moins jeunes. Ils se disent des choses étonnantes qui ne se disent pas forcément dans tous les spectacles, j'ai aimé, j'ai pas aimé. Il y a notamment une dame qui dit, qui met un peu de temps pour répondre et qui dit, ben voilà. C'est le spectacle que j'attendais dans ma vie. Ah, moi, quand j'entends ça, tu vois, et tu sens que c'est quelqu'un qui a la pratique, qui a l'habitude de pousser les portes d'interne, donc tu dis, ben voilà, moi, en faisant ce pari de venir ce spectacle-là, je sais qu'il va se passer quelque chose dans la tête des spectateurs, dans le cœur des spectateurs, dans l'émotion et l'humanité des spectateurs.
Ça donne envie, Michel, d'y aller?
Effectivement, c'est exactement ça. J'y suis pour le coup, je ne sais pas de quoi il en ressort précisément, mais au vu de la narration, de l'enthousiasme, des tripes qui parlent, on est sous le charme. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'on est sous influence. Mais c'est très agréable de voir, et vous l'avez dit, quelqu'un qui est profane dans ce genre de choses. Aujourd'hui, le théâtre de Gap peut tend la main et va faire des émules en disant bah, venez voir. Et pour le coup, quelqu'un qui est un tout petit peu curieux. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on peut être une fois de plus profane, mais être, être bouillonnant d'émotions et avoir un imaginaire là aussi débordant. Et moi, si je traduis grosso modo d'une manière transversale ce que tu viens de dire, c'est à peu près ça. L'émotion, c'est quelque chose qui est très personnel, qui est perçu avec ses couleurs, le côté édulcoré qui est très personnel, avec son rythme. Après, on prend peut-être que 10% de choses, mais c'est ça qui va se graver dans notre esprit. Et grâce à ça, on peut passer effectivement beaucoup de messages. Alors, je ne sais pas si c'est la fin du monde ou la résilience, puisque la résilience étant le renouveau, et s'il n'y a pas de résilience, il n'y a rien. Donc, pour le coup, on va considérer qu'il y a une résilience et qu'il y a un espoir. Par définition, il y a un espoir. Je ne sais pas, noir. Le noir et le blanc, c'est génial. Pourquoi ? Parce que c'est binaire, c'est oui, c'est non.
Ah ouais,
on va pas tergiverser sur les détails qui vont peut-être mettre en valeur l'œuvre. Là, au contraire, c'est abrupt. Tu prends pas, c'est la réalité. C'est vrai que si je fais un lien avec la réalité d'aujourd'hui, le noir et le blanc, pour prendre ce cas, c'est la réalité. Et la réalité, aujourd'hui, on la rejette dans nos sociétés. Mmh. On est dans le déni. Et je citerai, c'est Lydia Giroux. C'est une jeune femme qui a écrit un petit bouquin, et je l'ai déjà évoqué une fois. On est aujourd'hui, notamment dans les décideurs, sont dans le déni de leur déni. Ils savent que ça ne marche pas, mais eux-mêmes s'interdisent de penser qu'ils savent qu'ils ne savent pas. Et bien, je vais vous dire, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en est là. On est dans une situation, dans une société qui est victimaire. Pourquoi ? Parce qu'on l'a construit, cette société. Plus personne prend sa part de responsabilité, sa charge, entre guillemets, de travail, au bénéfice des autres, notamment la nation, et il faut qu'on découpe tout, il manque de l'argent de partout, il manque des compétences de partout, il manque des gens de partout, on est de plus en plus nombreux, c'est comme je vais faire un parallèle idiot, c'est comme de l'eau, on nous dit il va manquer de l'eau, mais nous on n'a jamais eu autant d'eau aujourd'hui qu'antérieurement, puisque les glaciers fondent, donc on va avoir de l'eau. Mais si on divise, si on fait le camembert, on en aura effectivement de moins en moins pour chacun. Ouais. C'est pour ça que la réalité, elle est dure, il n'y a qu'une manière de l'affronter, c'est de la comprendre. Alors peut-être par les scientifiques, je me rapprocherai pas de Greta Thunberg qui dit qu'il faut écouter les scientifiques, parce que depuis le temps qu'on les écoute, on en est là où on en est, on peut applaudir, mais malheureusement, ça n'a pas tout réglé.
Ah non, mais ce sont pas les décideurs.
Et voilà, tout à fait. Donc, enfin bon, c'est pour ça que l'imaginaire, tu vois un peu où ça m'amène.
Ouais, ouais. Et après, tu résumes assez bien par rapport au spectacle et le rapport au monde. Moi je pense que dans nos sociétés aujourd'hui, et peut-être des politiques, mais nous-mêmes, c'est-à-dire de retrouver une certaine humilité sur des choses qu'on arrive à comprendre et à régler. Il y a des choses qui nous échappent aujourd'hui. Donc, il faut pas faire semblant d'avoir des solutions qu'on n'a pas et qu'on ne sait pas résoudre. Et je dirais, par rapport au spectacle, dans ce que tu dis sur la simplicité, en fait, il y a quelque chose de très simple en rapport à l'art. En fait, ce spectacle-là, mais comme tous les spectacles, mais peut-être plus fortement celui-là, parce qu'il est à même d'aller toucher plus de gens que d'habitude, qu'on voit l'habitude, c'est juste une confrontation avec la beauté. Et que tu sois partenaire, spectateur habituel, c'est la confrontation avec la beauté, que ce soit la beauté d'un paysage, la beauté d'une peinture, la beauté d'un spectacle, ça marche. On a ça dans nos tribes, le beau, le rapport au beau est simple et fait du bien. Et ce spectacle fait du bien, fait vraiment du bien. On ressort avec la banane et on se dit, ben moi je trouve que ça donne des outils et de la force pour affronter la vie, le quotidien, qui est pas, on le sait, toujours riant pour tout le monde. Donc voilà, donc il faut être simple. L'art, c'est du beau, c'est de la sensibilité, et ça fait du bien.
Alors la sensibilité, c'est un lien avec l'identité. Mm-hmm. Et c'est vrai que quand on voit quelque chose qui est diffusé, qui correspond un petit peu à nos idées ou à un rythme qu'on essaie d'abrocher, et quand on voit qu'il y a un lien, on se dit oui, effectivement, je fais partie, donc l'identité. Je voudrais encore un tout petit peu finir. On est une société qui est de plus en plus complexe, mais ça, vous le savez tous. Et c'est vrai que cette société va très vite avec l'innovation, avec le développement des mœurs, entre guillemets. Mais le monde politique ne peut pas suivre, il n'y arrive pas. Mmh. C'est pour ça que moi, je suis le premier à faire des procès d'intention au monde politique. Mais je peux comprendre aussi qu'aujourd'hui, ils sont à la ramasse. Il faut qu'ils se réforment.
Il faut qu'ils se réforment.
Mais la nation ne doit pas, effectivement, échapper aux réformes, entre autres, et à sa propre réforme.
Ouais.
Si on ne fait pas ça, effectivement, le spectacle va donner raison à l'auteur.
Ouais. On va rester avec le côté artistique, avec une polémique hein, que tu auras suivie, bien sûr, avec l'annonce des restrictions dans les salles de spectacle. Les plus grands artistes, hein, ceux qui déroulent dans les grandes salles hein, de plus de 2000 places, sont montés au créneau pour... avec, on va dire, malice et ironie, communiquer sur le fait qu'ils n'appelleraient plus leur spectacle concert, mais meeting, hein, afin de ne pas avoir de limite de jauge, à l'instar des meetings politiques à venir pour les présidentielles. Donc, c'est vrai que le monde de la culture était circonspect. Les artistes se sont mobilisés pour dénoncer une injustice. Il y a eu notamment Grand Corps Malade, Julien Doré, Oshi, Eddie Depreto et j'en passe. Mais de toute façon... quoi qu'on en dise, l'exécutif sur le sujet était de toute façon bloqué. Hein. Le Conseil constitutionnel aurait, quoi qu'il arrive, retoqué les jauges des meetings sous couvert qu'une telle contrainte tombe sous le coup de la Constitution, tout simplement.
Ouais, ouais. Bah, tu te rappelles, il y a eu un appel au Conseil d'État avant, je crois que c'était l'année dernière, en disant qu'il rendait difficile la fermeture à nouveau des lieux. Après, c'est là que tu es content d'avoir une salle de moins de 2000 places.
Exactement.
Clairement, qui est une grande salle, hein, ici, 800 places, c'est une grande salle, mais bon, on est bien en dessous de la barre pour le moment. J'espère qu'elle ne va pas descendre cette barre, mais je comprends que les artistes, à un moment donné, c'est compliqué, si tu veux.
C'est ceux qui, en général, reçoivent dans les zéniths.
C'est ça. Le problème, si tu veux, c'est entre des meetings, moi tu vois, j'ai pas à prendre parti. Après un meeting, généralement les gens sont assis, c'est un peu comme dans les salles de spectacle.
Ouais.
Sur des concerts debout, c'est vrai que la proximité des gens, tu vois, l'échange des gens, mais bon, il y a des passes sanitaires, il y a des masques, il y a des barrières. C'est pas pour le moment les théâtres et les salles de concert. Il y avait déjà eu, tu te rappelles, un essai qui avait été fait avec les concerts
Indochine
ouais. où il y avait eu aucun, ça a pas été un cluster rien du tout quoi. Enfin voilà, bon. Ouais.
Bruno, t'es pas d'accord?
Non, mais moi je vois pas la différence entre un meeting et un spectacle.
Bien sûr.
C'est pas ça la question. La question, c'est on est dans le côté constitutionnel, tu sais.
Oui, mais justement, il y a une loi.
Oui.
Il y a une loi, elle est bonne pour tout le monde.
Ouais.
Donc si on ferme les spectacles, les festivals, les théâtres et tout, je vois pas pourquoi on pourrait faire des meetings à plusieurs personnes pour parler politique. Franchement,
oui, mais
moi, tu ne peux pas interdire aux gens l'accès donc à la politique.
Démocratie, quoi. Il faut qu'il y ait une campagne présidentielle en route.
Bruno, un petit peu comme.
Moi, ça me gêne.
Bruno.
Franchement, ça me gêne.
Oui, non, mais ça peut te gêner, mais comprends.
Je comprends.
Un peu comme l'accès à l'Assemblée nationale ou au Sénat qui n'est pas soumis au pass sanitaire. Exiger des députés de présenter un pass sanitaire pour plancher en commission, échanger ou voter dans l'hémicycle exposerait à empêcher certains de siéger, donc d'exercer la mission de représentation que leur ont confiée leurs commettants. Donc tout ça pour te dire que... Oui, non, mais tu comprends le...
Je comprends très bien qu'il y ait un problème constitutionnel, mais c'est un peu choquant
parce qu'il y en a certains des politiques qui voulaient instaurer donc le pass sanitaire au niveau donc des meetings, parce qu'on se dit c'est vrai, il n'y a pas de raison. Mais
oui.
Mais le problème, c'est que voilà, c'est anticonstitutionnel. Je vois que tu es troublé.
Ça a beaucoup de mal à passer, quoi. Ouais, je comprends l'aspect constitutionnel,
voilà,
si tu veux.
Oui.
Je le comprends, ça. Mais face au sacrifice qu'on a demandé à l'ensemble de la population pendant 2 ans, je trouve que ça a du mal à passer.
C'est comme tu ne peux pas de...
J'ai l'impression que, quand même, une fois... Alors, c'est vrai qu'il faut de la démocratie. Il faut que...
C'est là qu'ils mettent le curseur, quoi, en fait, finalement. Comment tu fais une campagne présidentielle, les candidats, si tu ne peux pas faire de meeting?
Oui, mais alors, il faut accepter...
Mais on est d'accord, mais c'est...
Il faut accepter qu'il y ait des clusters sur les meetings, quoi, à la limite.
Ouais, non, mais on est d'accord, c'est compliqué.
Et tu ne peux pas exiger non plus un pass sanitaire à quelqu'un qui va voter.
Ah oui.
C'est ballot, mais c'est comme ça.
Bon, ils auront tous leur masque, il y aura du gel, des douches de gel, je sais pas.
À l'entrée, tu sais.
À l'entrée, ouais. Après, tu vois, c'est là que tu dis...
Et comme un maire ne peut pas refuser de tenir les élections. C'est pareil.
Oui, enfin, voilà. Mais dès l'instant où ça touche à l'institution, c'est... Voilà.
Heureusement.
Et puis la pratique de la fonctionnement de la démocratie, c'est clair.
Oui.
Hein. C'est toujours... Mais c'est vrai que c'est délicat et ça peut paraître incohérent, mais après, tu te dis, les gens qui vont dans les meetings, ils savent ce qui... Enfin, tu vois ce que je veux dire, à un moment donné, c'est... Ok, il y a un débat démocratique à avoir, il faut qu'on entende les politiques, quels qu'ils soient, de quelque bord ils soient.
Oui.
Il faut bien qu'on les entende à un moment donné, que les gens puissent peut-être les voir, parce qu'il y en a des gens que ça donne... Voilà. Moi, je sais que je n'irai peut-être pas forcément dans un meeting, je peux me renseigner autrement.
Ouais, moi, sur je pense que j'éviterai. Ouais.
J'éviterai peut-être.
En ce moment, j'éviterai.
Je serai peut-être un peu plus prudent.
C'est un peu ce que je voulais dire, parce que je pense
qu'il y a chacun, en fait.
Il y a d'autres moyens. Les gens qui vont dans les meetings, c'est qui? C'est essentiellement les gens qui sont.
Les adhérents.
Les adhérents des partis. Mmh. Hein.
Et pas forcément. Je vais te donner mon exemple tout bête. J'étais à Paris ça devait être le 1er mai 2012, où il y avait deux grandes réunions politiques. Donc il y avait Marine Le Pen et il y avait Nicolas Sarkozy qui lui était au Trocadéro.
C'est pas Fillon là ?
Il y avait un monde, que ce soit d'un côté comme de l'autre et tout. Donc je ne suis pas partisan des meetings politiques, mais en étant sur place, donc à Paris, je me suis dit, c'est quand même l'occasion qui fait le larron, quoi. Et voir une fois ce que c'est impressionnant quand même. C'est super impressionnant.
C'est la différence entre écouter un album et de voir le musicien en live.
Exactement. C'est un truc de fou.
T'es jamais déçu en fait quand
c'est impressionnant, impressionnant cette ferveur qu'il y avait d'un côté comme de l'autre.
Marc, et à ce titre-là, la fête de l'humain. C'est quand même. C'est
oui, mais enfin, c'est plus que. Enfin, la fête de l'humain aujourd'hui n'est plus ce que c'était avant.
Pendant très longtemps, ça a été quelque chose de.
Aujourd'hui, c'est presque des concerts, quoi.
C'est un festival.
C'est vrai, il y a beaucoup d'artistes qui viennent chanter.
Une belle prog, d'ailleurs. Une belle prog.
Et en général, oui, c'est. Le mec qui fait la prog, il est pas mal. Ouais. Tiens, on va rester dans la musique encore, avec une autre polémique. Je sais pas si vous avez suivi, celle de Gims.
Pour qui a présenté ses vœux.
Maître Gims. Alors, tu connais Maître Gims.
J'ai pas entendu le.
Eh ben, Gims, il est un peu énervé quand on lui souhaite la bonne année, dis donc. C'est quand même étonnant. Alors, je propose d'écouter. Alors, il faut savoir, une petite histoire quand même. Pour la petite histoire, Gims est né au Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, à Kinshasa. Il est issu d'une famille catholique. Son papa est musicien. Il a joué avec Papa Wemba, grand artiste connu là-bas. Il arrive en France en 88 et il s'est converti à l'islam en 2004. Et donc, on lui souhaite tous les ans la bonne année et ça passe pas. Écoutez-le.
S'il vous plaît, avec les bonnes années, nouvel an, laissez-moi avec ça, pardon. Vous savez bien que je suis pas dans ça, je n'ai jamais répondu à ça. Mais vous continuez à m'envoyer des bonnes années, tout le mois de janvier, février, etc., s'il vous plaît. En plus, les musulmans, là, on a la même conviction, arrêtez avec ça. C'est des musulmans, la plupart, qui m'envoient ça. Les frères, on ne fête pas ça. Est-ce que les compagnons, ils ont fêté le nouvel an? Abou Bakr Siddiq, Omar, Othman, Ibn Affan? Non, les gars, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez, même des. Ah, s'il vous plaît, laissez les anniversaires, je souffre avec ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, parce que c'est comme ça. Donc, ça fait pas partie de nos convictions, les musulmans. Venez, on se concentre un petit peu sur nos trucs à nous. Hein? C'est pas méchant. Mais restons quand même forts sur nos valeurs, nos trucs à nous. Pendant l'Aïd, tous ceux qui font Thanksgiving, etc., ils sont pas tranquilles, ils font pas l'Aïd. Noël, etc., on respecte. Ce ne sont pas nos fêtes. Donc quand je vois des grands sapins chez des Mustapha, des Bakari, etc., je vois qu'on n'est pas concentré à la maison là-bas.
On n'est pas concentré là, les enfants. Alors, ça, je sais pas. Moi, ça m'a un peu scotché. Je me dis, bon, effectivement, on peut très bien être musulman et... on est en France et on se souhaite la bonne année.
Bah, en fait, ce qui est très bizarre, c'est qu'il y a un endroit des fêtes de Noël, tu peux comprendre. Dans la religion, c'est pas les mêmes.
Oui,
etc.
Bien sûr.
Ça, il n'y a aucun problème. Bah, tout le monde passe dans une nouvelle année, si tu veux. À un moment donné, il y a un basculement du 31 décembre au 1er janvier d'une autre année. Ça n'a rien à voir avec la religion ou les convictions religieuses, politiques et tout. Enfin, tu vois, c'est plutôt de l'ordre de la chronologie du temps. Donc, qu'on lui souhaite bonne année sur les 361 jours qui vont venir. Enfin, c'est quoi ça, je vois pas le rapport entre les convictions musulmanes ou autres. Enfin,
paraît que quand on est musulman, la bonne année, ça ne se souhaite pas visiblement.
Ça
doit pas se refuser de la même manière.
Il attaque aussi les gens qui célèbrent, enfin qui vont fêter Noël, enfin pas célébrer mais fêter Noël.
Non mais ça c'est
Noël.
Autre chose, c'est une fête religieuse Noël, on le sait très bien.
Il y a pas que les catholiques qui fêtent Noël.
Oui, bien sûr.
Je veux dire autrement, les producteurs d'huîtres, de foie gras et tout,
la
gueule quoi quand même.
Mais c'est quand même la naissance de Jésus, donc c'est la religion chrétienne.
On est d'accord.
Musulman,
c'est
pas la fête qui te.
Alors ça c'est le côté religieux de Noël, mais il y a le côté non religieux, entre guillemets, où effectivement tout le monde a un sapin et tout le monde offre un cadeau.
C'est ce qu'il reproche, Maître Gay.
Oui, absolument.
Ne mettez pas de sapin si vous n'y croyez pas. Alors que bon, il y en a qui ont envie de mettre un sapin parce que tout simplement ils ont envie de faire l'ambiance à la fin de l'année. C'est tout.
C'est l'ambiance.
Et pour les enfants. Oui, alors ce qui est très étonnant, ça ne l'a pas empêché, je vous voyais, de venir chanter dans l'émission spéciale Noël de TF1 de Jean-Luc Reichmann, les 12 coups de Noël. Donc c'est. On s'arrange un petit peu.
C'est pas pareil, c'est du business là.
C'est monnaie.
Je suis en promo là.
Alors, une autre polémique que je voulais aborder avec vous, qui va nous faire sortir de la France, en quelque sorte, c'est la polémique du drapeau européen. Vous l'avez bien sûr tous suivi. L'exécutif a donc salué la présidence de la France à l'UE pour 6 mois en mettant le drapeau européen sous l'arc de triomphe. Alors, visiblement crime de lèse-majesté pour les patriotes que sont Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, Éric Zemmour, hein, en général très à droite, ils étaient un peu outrés. Leur argument, nous sommes français avant d'être européens, il aurait fallu mettre au moins les deux drapeaux, ou alors pas sous l'arc de triomphe, là où brûle... la flamme du soldat inconnu.
Ouais.
Non, moi je suis pas choqué, je trouve ça même bien qu'il ait fait ça, parce qu'il est président effectivement de l'Europe, l'Europe qui, quand on regarde son parcours, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait du traité de Rome jusqu'à aujourd'hui, eh bien il y a une évolution. Moi ça me gêne pas, et c'est bien de revendiquer qu'aujourd'hui on est à la présidence, et qu'il y a des pro-européens qui croient encore à cette organisation. Elle doit évoluer, elle doit changer, on ne sait pas le faire, on n'y arrivera peut-être pas, j'en sais rien, mais moi ça me choque pas, je suis français et je suis pas forcément pro-européen parce que je connais pas tous les rouages, mais je trouve que c'est bien que de considérer que, notamment quand on est président et qu'on accepte la présidence, on prend le paquet avec. Et pour le coup, c'est, je pense que le fait d'avoir marqué le coup comme ça, c'est bien. Ça dévalorise ceux qui l'ont critiqué, puisque j'ai l'impression que demain, ils vont faire un Frexit. Oui, dans leur discours, ils sont français avant tout, mais moi aussi, je suis français, mais il y a une chose qui est sûre, qui est interdite, c'est d'être con avant tout.
Je trouve qu'on essaie d'imposer des espèces de trucs polémiques et des débats
sur des sujets un peu futiles. Hein.
Mais oui, on est d'accord. C'est exactement ce que je voulais dire, moi, parce que je veux dire, il me semble que l'arc de triomphe,
l'arc de triomphe, déjà, c'est le symbole de la France.
Mais oui, mais quand l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde,
on a mis Zizou,
je sais pas qui dessus.
Zizou,
le président.
On s'en sert un peu pour faire le buzz, je veux dire. Moi, je suis pro-européen, ça me choque pas que la France rentrant en présidence de l'Union européenne
marque le coup.
Il faut pas aller plus loin, il faut pas
surtout que avec cette crise sur laquelle on a quand même touché beaucoup d'argent de l'Europe.
Alors tiens, justement tu as raison de dire ça, il y a Luc Ferry qui est monté au créneau en disant ça, écoutez-le.
Ils ont mis le drapeau européen pour célébrer l'entrée de la France dans l'Union européenne, enfin la présidence de l'Union européenne, ce qui, encore une fois, n'a rien de scandaleux.
Mais vous avez dit quoi de la droite, puisque si je...
La droite me concerne, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, je trouve que si la droite ne trouve pas autre chose que cette histoire de drapeau pour critiquer la politique de Macron depuis 5 ans, les bras m'en tombent des mains. Voilà, et en plus, on n'est pas anti-européen, on est pro-européen en principe. Et donc, la France fait partie de l'Union européenne, et l'Union européenne nous a rendu un tel service depuis 2 ans. Encore une fois, l'économie par terre française serait par terre de A jusqu'à Z sans la BCE aujourd'hui, et sans la politique de l'Union européenne. Donc ça suffit, cette histoire.
Tu vois, je suis pas souvent d'accord avec Luc Ferry, mais là, en l'occurrence, c'est du bon sens, quoi.
Oui.
Si tu veux, après, mais c'est là, je trouve, là où c'est plus grave quand l'opposition monte au créneau comme ça, en disant la France. C'est-à-dire qu'en fait, ils redisent quand même que la France ne peut pas exister, si tu veux, avec les autres.
Bien sûr.
Tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est pas vrai.
Ouais.
On sait que la France peut être plus forte avec les autres, et notamment au niveau européen. Bon, moi, je sais pas si je suis un pro-européen ou pas pro-européen convaincu, j'en sais rien, Je sais qu'en tous les cas, je pense que la présence la forte de l'Europe dans ce monde aujourd'hui, tu vois, avec des grands équilibres entre Chine, États-Unis, etc., est quand même importante. On y arrive, je sais pas si on y arrivera, mais en tout cas, mais tu vois, je trouve que c'est te dire non, on se recroqueville, France. Mais non, ça marche plus, faut arrêter.
Comme
quoi.
Gims, on se recentre.
Non, mais faut arrêter.
Il faut pas oublier non plus qu'en 2021, on a vu les Anglais sortir de l'Europe, oui, avec le fameux Brexit, hein, et je suis pas sûr qu'ils soient vraiment mieux aujourd'hui.
Pas vraiment.
Donc, ils ont pas l'air d'être ravis.
Je suis d'accord avec toi, c'est que il y a quand même dans le monde trois grands groupes économiques ou même populaires, si on veut, si on peut dire parler comme ça, qui sont l'Amérique. L'Asie d'un côté, et on a besoin d'un bloc européen fort. Moi, je suis pro-européen, je pense qu'il n'y a pas mort d'homme à mettre un drapeau pendant quelques heures sur l'Arc de Triomphe.
Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y en avait certains même qui étaient montés au créneau en disant que c'était une offense aux soldats français enterrés là, même si on ne sait pas s'il est français, puisque c'est le soldat inconnu.
C'est ça.
Ça m'avait fait rire. J'ai dit, mais on n'est pas sûr qu'il soit français, il est inconnu. On ne sait pas qui il est.
C'est dommage. Vraiment,
En plus, ce soldat est peut-être européen. Je vous rappelle que c'est tout un symbole, l'Europe. Hein. Elle a été créée pour éviter à nouveau une troisième guerre mondiale, et même avant. Ah oui. Donc voilà. Enfin, moi, je ne sais pas.
Non, mais tu vois, c'est quand même. On est en campagne présidentielle, ouais, tu vois. Donc ça, c'est typiquement de la politique politicienne, c'est-à-dire que les politiques s'emparent, essaient de faire monter en mayonnaise, si tu veux, des thèmes qui, soi-disant, seraient soutenus par le peuple français, en fait, qui s'en foutent, ce genre de trucs, quoi, si tu veux. Il y a des choses beaucoup plus importantes dans son quotidien, mais sans déconner, moi, des fois, tu vois, ça me révolte quand même, en fait, ce genre de... Je peux le prendre, dire, polémique débile, etc., enfin, ça m'intéresse pas, mais ce que ça sous-entend derrière, ce que ça veut dire, des gens qui montent au créneau comme ça, tu vois, c'est... Je trouve qu'il y a un truc malsain quand même.
Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire pendant qu'on parle pas, quand on parle de ça,
on parle pas d'autre chose.
Et ça c'est un peu gênant.
La stratégie du magicien.
C'est un peu comme quand j'emmerde des gens qui sont pas vaccinés. C'est un peu pareil, tu vois. Pendant ce temps, je crée cette polémique là, mais comme ça, on parle pas de reste.
Ouais,
c'est on ça. Met un peu la merde sous le tapis, tu vois.
Mais ça, c'est les journalistes, non? Tu sais, comme le dit. On l'a bien
oui,
vu.
Ah, bah oui, les journalistes.
Vendu!
Suceur du gouvernement, quoi.
Suceur! Ouais. C'est sur ces bonnes paroles que l'on va se quitter. On est arrivé au terme de cette émission. Merci, Philippe.
Merci à toi, Thierry. Merci à
tous. Et donc, on croise les doigts pour que tu arrives à ta jauge totale.
Ben, surtout, on croise les doigts qu'un maximum de gens voient cette merveille.
Voilà.
Vraiment.
Ouais.
Non, mais va y arriver à ces 5000 places.
On va le faire. En tout cas, on fera tout et on en reparlera, bien sûr, et notamment dans les semaines à venir sur Alpe 1. Merci, messieurs. Merci, Mimi.
Merci
Bruno.
Bonne
Encore
semaine.
Une fois, merci, Philippe.
Merci
à une prochaine
beaucoup.
Fois et on se retrouve la semaine prochaine. Ah, tiens, la semaine prochaine, nous serons du côté de Briançon. Allez, bon week-end.